pose. Qu'est-ce que c'est que ce mouvement ? Discerner tout de suite dans les mouvements le mouvement artificiel et le mouvement naturel. Ce que nous venons d'entendre est un mouvement artificiel. Tandis que quand on entend le bruit de la nature dans une forêt, on sait que c'est un bruit qui provient du mouvement naturel. Et c'est pas toujours commode de bien discerner les deux. Or, c'est un fait. On a précisé la dernière fois la diversité très grande du mouvement naturel. Et il faut faire cette distinction tout de suite. Puisque n'oublions pas que la philosophie de l'art précède la philosophie de la nature. De sorte que nous devons faire ce discernement. Est-ce que nous sommes en présence d'une réalité qui relève d'une activité artistique, d'un mouvement qui relève de l'art ou d'un mouvement naturel? Très important, ça. Vous voyez, ce n'est pas une question de principe, hein, c'est une question de discernement d'expérience. Parce que le mouvement artificiel provient directement de l'homme. Ce que Nietzsche dit. Là, on peut très bien prendre la parole de Nietzsche, on peut prendre Valéry. On est en face d'hommes qui constate ça. Valérie, monsieur Test, devant le caillou qui se touche sur la rive, devant le silex qu'on rencontre. Et Nietzsche, quand je suis dans une ville, je dis l'homme. Quand je suis devant le désert, devant la nature, je dis c'est divin. Vieille réminiscence de Nietzsche revient. Nous ne disons pas Dieu, nous disons c'est naturel. Donc il y a là quelque chose de très important à tout de suite bien préciser. Parce que si vous partez sur une fausse piste, votre induction n'aboutira à rien du tout. Donc il faut. Puis, l'expérience dont on se sert au point de vue inductif et implique déjà toute une réflexion en fonction de l'intention profonde qui nous mène. On a vu ça en métaphysique, la fameuse induction de la substance. On se sert des prédicaments et c'est déjà quelque chose de très élaboré. L'induction de l'acte, on se sert de toutes les parties de la philosophie. Et l'expérience du point de départ de l'induction est très élaborée. Et ici, nous faisons ce discernement entre tous les mouvements que nous pouvons constater. Un mouvement artificiel qui est peut-être très proche de la nature, vous voyez. Quand on mettait une pile pour aider le cœur à battre régulièrement, le mouvement du cœur reste un mouvement naturel. Parce que la pile est là uniquement coadjuvante, pour aider. C'est tout à fait différent qu'un mouvement artificiel qui, lui, est directement commandé par quelque chose qui est extrinsèque, qui n'est plus la nature, qui est là. Donc là, toute une réflexion importante pour discerner un mouvement naturel et un mouvement artificiel. Une fois que j'ai fait ce discernement, je réfléchis sur la diversité des mouvements naturels. Parce que je n'avais pas assez insisté la dernière fois là-dessus. Vous avez dit que là, il y a tout de suite un discernement. Vous voyez, et qui est de l'ordre descriptif, ça. C'est de l'ordre descriptif. C'est pour ça que c'est au niveau du mouvement. Au mouvement, au niveau de l'expérience, je veux dire. L'expérience, je la décris. Et je décris la diversité des expériences des mouvements de la nature et la diversité du mouvement naturel et du mouvement artificiel. Je peux aussi montrer la diversité entre le mouvement naturel et le mouvement volontaire par rapport à moi. C'est aussi. Aristote ne le fait pas, mais nous pouvons très bien le faire. Parce que l'éthique est présupposée à la philosophie de la nature. Et si nous partons de là, nous voyons bien que le mouvement naturel se distingue du mouvement volontaire, moral, et du mouvement artificiel. Il y a quelque chose de virginal dans le mouvement naturel, vous voyez. Quelque chose de fondamental, de premier. Là où l'homme n'intervient pas. Un cyclone. Mouvement naturel, quand même. Hein. Complexe, mais naturel. Un rôle de marée. La rive sauvage. Regardez l'océan. Regardez la douce Méditerranée. À l'Érins. Et vous vous posez la question, qu'est-ce ce mouvement naturel ? C'est la première question que vous posez. Qu'est-ce ce mouvement naturel ? Il faut voir si vous pouvez répondre. Hein ? Et vous verrez tout de suite que ce mouvement naturel, il est complexe. Il n'est pas simple. Mais ce mouvement naturel est déterminé. C'est toujours le même. Détermination. Le feu. Parce que ça, c'est évidemment le mouvement naturel le plus étonnant qui soit. Ça a toujours intrigué les anciens, ça intrigue les enfants. Et ça nous intrigue en tant qu'on est encore un enfant, c'est-à-dire encore un philosophe. Parce que le jour où vous n'êtes plus un enfant, vous n'êtes plus un philosophe. C'est pour ça que la philosophie nous mettrait tellement proche des enfants. Parce que l'enfant a quelque chose, le sourire de l'enfant, hein, c'est quelque chose de naturel. Ça ne trompe pas, ça. Le feu. C'est complexe. Parce qu'il est complexe, vous pouvez voir qu'il y a dans ce mouvement naturel une détermination. Et aussi des possibilités de choses qui ne sont plus dans l'orientation. Autrement dit, il peut y avoir des déviations. Tout mouvement naturel peut impliquer des arrêts, des indéterminations, des failles. Vous distinguez ce qui arrive la plupart du temps et ce qui arrive de temps en temps, d'une façon, par le hasard. Faites tout de suite cette distinction-là. Ça, c'est pas encore l'induction. Mais je pénètre plus loin dans la description, dans l'expérience. Je constate cette détermination et cette orientation. Et vous savez, cette expression, je crois qu'elle est très bonne. La plupart du temps, c'est comme ça que ça se passe. C'est pas un principe, hein. C'est la plupart du temps, c'est comme ça que ça se passe. Les hirondelles qui arrivent. La plupart du temps, faites attention, ça passe comme ça. Et puis quelqu'un d'imprudent qui dira, mais non, ça m'est égal. Vous verrez. Il y a des constantes dans le mouvement naturel. Mais il peut y avoir des arrêts. Il peut y avoir des fausses notes. C'est pas... Ne vous scandalisez pas. Il peut y avoir des choses monstrueuses. Il pas du vivant, je parle du point de vue naturel. Je crois que je ne peux pas aller plus loin quand je me pose la question, qu'est-ce que c'est que ce mouvement naturel? Où je pourrais le mieux, c'est quand je me pose d'où ça vient. Oui, alors ça c'est une question extrêmement intéressante, qui implique la critique, hein, dès que je suis dans l'induction, le philosophe avance, mais il critique aussi. L'induction à partir du mouvement naturel doit-elle se faire du côté de la cause efficiente ou du côté de la cause formelle? Très grave question, ça. C'est très important. Je crois que du côté de la cause formelle, je ne peux pas aller plus loin que de dire la plupart du temps, c'est comme ça. Il y a une détermination. Il y a une détermination dans la nature. Mais il y a des ratés. Et parce que la plupart du temps, c'est comme ça qu'il y a des ratés, je ne saisis pas encore vraiment un principe. Et vous comprenez, là se pose le problème que tous les anciens ont saisi avec beaucoup d'acuité, surtout avec Héraclite. Est-ce que vraiment le mouvement naturel peut être saisi par le philosophe comme quelque chose de suffisamment intelligible pour le faire saisir un principe? Étant donné ces ratés qui existent, ces monstres qui existent dans la nature, ces choses qui n'existent, ne se trouvent pas tout le temps dans la nature. Évidemment, tout de suite, hein, les anciens viendraient à la considération du ciel où les choses sont tellement régulières. Le soleil, comme c'est régulier. Il se lève tous les jours sans retard. Jamais fatigué. Mais il y a quand même quelque chose qu'on constate, que des variétés suivant le cycle. Et ça a commencé comme ça, hein. Faut pas oublier. C'est l'aspect régulier du mouvement céleste qui intrigue le plus. Régularité extraordinaire, cette détermination. Et en même temps, quand je suis dans le monde sublunaire, ces choses grattent. Là, il y a un contraste, vous voyez. Et là, je crois qu'il y a un moment très important pour l'induction. Un moment très important qui fait comprendre comment, de fait, au plan philosophie de la nature, on va voir tout de suite deux orientations. Une première orientation qui dit que la nature est parfaitement déterminée. Le déterminisme absolu. Et les autres qui disent non, non. Dans la nature, tout change tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc ne vous inquiétez pas. Et c'est là où l'aspect critique premier livre des physiques d'Aristote est important à assumer. C'est que, de fait, il y a une véritable intelligibilité philosophique dans le devenir. Et je crois qu'on doit s'arrêter là un moment, avant de faire l'induction. Parce qu'on est en face de quelque chose qui n'est pas si commode que ça déterminé. Pas une intelligibilité absolue. Pas l'intelligence. Il y a l'indétermination fondamentale de la réalité physique. Et cette détermination fondamentale de la réalité physique fait que je me heurte constamment devant quelque chose que je ne comprends pas. Pas si intelligible que ça, la nature. La nature cache son secret. C'est quelque chose de très particulier. Elle cache son secret. Il faut longtemps, longtemps regarder. Il y a une espèce de patience, vous voyez. C'est la différence avec la philosophie des idées, ça va tellement vite. Tandis que là, pas du tout. Je constate qu'il y a quelque chose de secret qui se dévoile lentement, très lentement. Évidemment, la constatation du ciel, la régularité, se constate mieux, mais par rapport à ce que je touche, moi, directement. Parce que le ciel, j'en ai une expérience lointaine. C'est pour ça que je ne peux pas partir de la nature. Je ne peux pas partir du ciel pour découvrir la nature. On serait tenté. Je crois que c'est une tentation. Parce que je n'ai pas d'expérience immédiate. Donc je ne peux que décrire la courbe de ces mouvements merveilleux. Ce qu'ont fait les astronomes anciens, ils ont découvert le mouvement régulier. Je constate que tout mouvement impliquant une détermination implique des contraires. Tout mouvement de la nature. Et donc il y a là une intelligibilité à l'intérieur du mouvement qui permet quand même d'avoir quelque chose de fixe. Tout mouvement physique est entre deux contraires, il y a un sujet. C'est les trois points d'intelligibilité du devenir. Les deux contraires et le sujet. Ce qui est mu. Qui permet de montrer le pantareil des rachites de coule n'est pas absolu. Au fond, c'est une apparence. En réalité, il y a quelque chose d'intelligible qui est donc au-delà de cet aspect d'apparence. Et l'indétermination, et dire que tout est indéterminé, qu'on est dans une relativité absolue, pour le philosophe, qui essaie de comprendre un peu le mouvement de l'univers, ce n'est qu'une apparence. Apparemment, c'est comme ça. Mais il y a autre chose que je peux déterminer. Il y a une détermination. Une détermination qui n'est pas absolue, c'est pour ça qu'on dira toujours la plupart du temps. Mais il y a une détermination. Dans une indétermination. On maintient les deux. Si je maintiens les deux, une détermination dans les déterminations, je vois que je ne peux pas avoir de principe propre. Puisque c'est la plupart du temps comme ça. Donc, je suis arrêté là. Je ne peux pas aller plus loin. Alors, je me pose la question, d'où vient le mouvement ? Oui, bien, si je n'ai pas un seul principe, je raisonne la dualité. Si je raisonne la dualité, je ne peux pas induire. On a déjà vu que l'induction exigeait l'unité. On part du multiple pour arriver à l'un. Or, du côté de la détermination, je n'ai pas une détermination absolue. Il y a l'indétermination.
Je ne vois pas pourquoi on part du mouvement, parce que c'est vrai que c'est dans le mouvement.
C'est ce que vous constatez. Vous constatez autre chose ?
Mais, par exemple, l'eau, si on demande qu'est-ce que c'est que l'eau, elle peut être aussi bien stagnante que coulante. Et on peut se demander qu'est-ce que c'est que l'eau.
Oui, mais elle est toujours coulante. Quand vous la prenez dans votre main, elle coule.
Mais pas une plaque d'eau.
Ah oui, c'est autre chose. Mais vous la regardez, touchez. La flaque d'eau, hein, peut très bien être artificielle. Le monde physique, vous devez le toucher. L'expérience philosophique la plus concrète, c'est le toucher dans le monde physique. Tant que je n'ai pas touché la terre, tant que je n'ai pas touché le feu, aïe aïe, hein. Mais je ne sais pas ce que c'est. Pas suffisant, d'ailleurs, vous pourriez faire la philosophie de la Lune, vous la voyez. C'est le toucher qui fait comprendre le mouvement. En premier lieu, fondamentalement, mettez l'eau dans votre main. Alors évidemment, vous pouvez la garder, cette eau, la garde, mais il faut faire attention qu'elle ne file pas. Le feu, gardez-le dans votre main. La terre, oui, elle a une certaine, vous la tenir, mais dès que vous la tenez plus, elle s'en va. C'est l'expérience du mouvement qui est première, non, simple, oui.
C'est-à-dire qu'on n'a pas l'expérience du repos comme telle dans la nature.
Exactement. Nous n'avons aucune expérience du repos. Le monde physique est sans repos. Vous voyez, c'est là où je corrige Aristote en fonction de toutes les expériences de la science qui nous obligent d'aller là. Quand je prends Aristote selon la scolastique, qu'est-ce qu'on fait? On fait tout de suite nature-forme, nature-matière. Eh bien, c'est faux. On ne peut pas. Je n'ai pas de principe, là. Et je corrige ici. Je corrige tout simplement en essayant de trouver l'induction. Je reprends l'induction. Et j'essaie de la reprendre avec beaucoup de force. L'induction, on part du multiple vers l'un. C'est net. Or, ici, j'aboutis à la dualité. Oui, et ça a fait expliquer pourquoi Aristote ne parle jamais de l'idée en philosophie de la nature. L'idée, c'est un principe 1, mais pour le mouvement artificiel. Le mouvement artificiel aboutit à l'idée 1. L'artiste aboutit à l'idée 1. L'artiste aboutit tout de suite à la forme. La distinction forme et matière est une distinction de l'œuvre artistique. En premier lieu, vous avez l'idée et la matière. Voilà, ça c'est l'œuvre artistique. Tandis qu'en philosophie de la nature, vous n'avez pas en premier lieu nature-forme, nature-matière. C'est très tentant ça. Et vous voyez, faire ça, ce serait tout simplement projeter, c'est une projection. Toute la scolastique avait ça. J'ai le son d'idée. La distinction en nature forme, l'île forme. Mais c'est faux, c'est pas ça du tout, Aristote.
Quand je vois par exemple l'eau de la mer, une rivière où il y a plus de pluie, c'est de l'eau. Je ne peux pas me poser la question à partir de là.
Oui, mais bien sûr, je cherche qu'est-ce que c'est que ce mouvement naturel, puisque c'est ça que j'expérimente. Quand vous dites que l'eau, c'est vous, c'est déjà très évolué, dire que c'est l'eau. Hein. C'est un élément, l'eau. Vous avez déjà le schème nature-forme, nature-matière. Supprimez ce schème. Puisque, au fond, la distinction idée-matière, c'est une distinction première que vous avez dans l'ordre de l'expérience artistique, de l'œuvre artistique, du mouvement artistique. Le mouvement artistique, tout de suite, il y a une idée derrière la tête. Tandis que lorsque vous regardez le mouvement naturel, c'est complexe. Il est déterminé, je suis tout à fait d'accord, il est déterminé. Mais il y a une indétermination fondamentale, constante. Et c'est pour ça qu'Aristote est obligé de dire la plupart du temps. Mais quand il dit la plupart du temps, c'est plus un principe. Oui. Oui.
Est-ce qu'on peut dire qu'au niveau de description, le langage, parce qu'il élève de langue,
oui.
Il nous enferme dans cette...
Oui, tout à fait. Parce qu'au point de vue du langage, la première expérience, toujours l'œuvre d'art. Toujours l'œuvre d'art. Et quand on est fatigué, le conditionnement devient détermination. Et la scolastique, c'est une philosophie fatiguée. Parce qu'elle s'appuie sur la théologie. S'appuyant sur la théologie, mais ça prouve que vous êtes fatigué. Vous êtes fatigué quand vous appuyez sur la théologie. Le philosophe a sa liberté, son indépendance. Il doit avoir son indépendance comme philosophe. Mais pour avoir son indépendance, il faut tout reprendre. Je suis tout à fait d'accord, le langage est commandé par ça. voyez, ce que j'essaie de montrer ici, c'est que il y a cette chose terrible, c'est que si je prends ce schème nature-matière, nature-forme, nature-matière, l'idéal à matière, ça je l'ai tout de suite, hein, je suis tous d'accord là-dessus, c'est facile. Vous voyez comme on idéalise facilement, on idéalise le monde physique par la nature-forme. Il y a ça que c'est bien, c'est pour ça qu'il invente le mot morphée. Le mot morphée n'est pas le mot idéal. D'autres choses, la plupart du temps. Moi, ça m'a toujours beaucoup frappé, ça. Là, ça met un petit doute. La plupart du temps, c'est pas un principe, la plupart du temps. C'est suffisant pour avoir une certitude pratique. La plupart du temps, c'est comme ça. Vous pouvez passer sur ce pont, la plupart du temps, il ne se défonce pas. Mais un jour, ça se défonce. La plupart du temps, il y a beaucoup de gens qui sont passés, mais ça ne s'est pas défoncé. Qu'est-ce que c'est ? La détermination de la nature. Ça craque. C'est suffisant pour la prudence, mais ce n'est pas un principe. Et cependant, alors comme je suis là, je comprends très bien, alors faut-il revenir au pan d'arrêt ? La philosophie de la nature, non, ça n'existe pas, il n'y a pas de philosophie de la nature. On serait tenté de ça aujourd'hui, surtout avec l'influence de la science. On serait tenté de dire, mais non, c'est pas la peine, c'est une vieille chose, c'est encore un mythe. C'est un mythe, la nature forme, la nature matière. Je comprends, si je le prends dans la scolastique, c'est un mythe. Parce que c'est une projection d'une distinction au niveau œuvre, au niveau mouvement naturel, et je transpose. Donc, j'habille la nature. C'est ça la projection. Je l'habille. Nature forme, c'est tellement commode. Mais ça n'est pas vrai. Oui, c'est une projection, dénomination. Et si je suis attentif à Aristote, je vois bien qu'Aristote a très bien saisi ça. La plupart du temps, c'est comme ça. La plupart du temps, il y a... Si, il n'y aurait pas le hasard. Le hasard existe dans la nature. Le hasard ne doit pas exister dans l'œuvre artistique. L'artiste ne l'accepte pas. Il dit, oh, c'est la matière qui a craqué. Il ne dira jamais que c'est son idée, quoi. C'est la matière qui a craqué. Je n'avais pas vu ça. J'avais pas vu ce nœud. Il s'excuse toujours, l'artiste, sur la matière. C'est jamais son idée. Il n'y a pas de hasard dans l'idée. L'idée est parfaitement déterminée. Et l'idée venant sur la matière, ah ben alors là, c'est autre chose. Bon. Et tout mouvement naturel implique détermination et indétermination. Mouvement naturel, à chaque instant, ça explique le pan d'arrêt. Tout mouvement naturel, à la différence du mouvement artistique. Pourquoi vous vous fâchez quand vous avez un moteur, vous l'avez bien fait marcher, puis craque, au bout de 5 km, ça ne marche plus. On se dit tout de suite, mais l'imbécile aurait dû quand même prévoir ça. Tout de suite, mais on est mécontent, celui qui s'occupe des voitures, il m'a dit que ça marchait. Pas du tout, ça ne marche pas. Vous vous fâchez. Tandis que quand vous êtes dans la nature, ça craque. Fâchez pas, c'est normal. C'est très curieux, mais on a des réactions comme ça qui sont vraies, du reste. Qui sont justes, il y a quelque chose de juste. La mécanique, ça doit marcher. Parce que l'idée, la nature, mais vous acceptez. Vous avez accepté qu'aujourd'hui il y a de la pluie, hier il y avait du soleil, il y a du vent, vous acceptez ça. Vous ne vous fâchez pas, vous êtes une espèce de nature idiote. Il y a du vent aujourd'hui, il ne devrait pas y en avoir, rien, c'est calme. Mais non, vous acceptez cette variété. Vous êtes désolé en disant, oh, c'est dommage. J'ai fait ce voyage espérant qu'il fasse beau et puis il pleut tout le temps. Première fois qu'on va en Bretagne, on a du brouillard, on ne voit rien. On avait dit, mais, ut in pluribus, il y a du brouillard. mais on espère quand même un grain de sel. On ne se fâche pas, et on se fâche contre le mouvement moteur qui ne marche pas. C'est très curieux, mais il y en a quelque chose qu'on ressent très fort. C'est rien, c'est des réactions affectives, c'est pas un raisonnement, mais ça exprime quelque chose. Mais c'est pas du tout de la même façon. Alors, vous voyez, il faut sauvegarder l'intelligibilité du mouvement naturel. Ce que Aristote fait dans le premier livre des Philippiques. Donc, deux contraires, un sujet. C'est suffisant. Voilà l'intelligibilité. Alors, ce serait très intéressant de se poser la question, cette intelligibilité du mouvement naturel permet-elle d'induire tout de suite la forme? Il dit non. Parce qu'il y a la dualité qui demeure. Ça vous déroute complètement, ça. C'est très bon, c'est ce que je veux.
Mais pourtant, la plupart du temps...
La plupart du temps n'est pas un principe. C'est une expérience.
Mais cette expérience de la plupart du temps n'implique-t-elle pas pourtant de découvrir deux effets à une même chose?
Nous allons voir ça après. Mais c'est pas par là que je peux saisir un principe. C'est tout simplement ce que je fais. Il y a un arrêt. Je vais commencer par ça parce que instinctivement on fait ça. Distinction matière et forme. On a ce schème-là. Je veux détruire ce schème. En montrant que ce n'est pas par là que l'induction se fait. Il est bien ancré, ce schème. Je détruis le schème, cependant je ne tombe pas dans Héraclite. Parce que je dis qu'il y a deux contraires et un sujet. Il y a une intelligibilité. Dans tout mouvement naturel, il y a une intelligibilité. Tout. C'est évident. Et l'intelligibilité, cette intelligibilité me permet-elle de découvrir un principe? Et où est ce principe? Ce principe, il va être découvert du côté de la causalité efficiente. Et une fois que j'ai découvert la causalité efficiente, je reviendrai sur la distinction de matière et forme. La distinction de matière et forme, je l'accepte, hein, je ne la nie pas. Je dis qu'elle n'est pas première. Qu'est-ce qui est premier? C'est découvrir la nature comme principe propre, efficient. Voilà ce qui est premier. Et une fois que j'ai découvert ce principe, je peux réfléchir sur ce principe qui a une dualité. Mais du côté de l'efficience, la dualité est unie. Il n'y a qu'un seul principe. C'est très curieux, ça. C'est très intéressant. Hein, c'est très intéressant. Parce que ça montre bien que la nature matière n'est pas un principe. C'est pas un principe. Et ça vous montre bien que la nature forme et principe, dans la mesure où elle est liée à la principe efficient. C'est pas un principe séparé. Tandis qu'instinctivement, on le séparait. Oui.
La question que je me pose, c'est quand on regarde la force en physique moderne.
Oui, en physique moderne.
Est-ce qu'il n'y a pas un certain blocage, justement, où on essaye de formaliser.
Oui. On formalise l'efficience.
Voilà,
l'efficience. Oui. Sûrement. Alors, au plan de la science, puisqu'on cherche les lois et qu'on ne fait pas la distinction, on a le droit. La science n'implique pas cette distinction. Vous voyez, c'est plus gros. C'est la loi, antécédent et conséquent. C'est tout. Le conditionnement des deux. Tandis qu'ici, j'essaie de comprendre, de saisir un principe. Donc quelque chose d'indivisible. Et je ne peux pas le saisir directement dans nature forme et nature matière. Ça, il faut beaucoup réfléchir là-dessus, mais je crois que c'est capital. J'ai beaucoup cherché ça. Longuement, longuement. Parce que j'avais forcément au point de départ le schéma scolastique. On m'enseignait le schéma scolastique, moi. Et ce schéma scolastique, il est très fort parce que c'est le prolongement. Mais le jour où vous découvrez que la distinction forme et matière est premièrement dans l'activité artistique, dans le mouvement artistique, vous voyez, ça ne peut pas être transposé en philosophie de la nature. C'est impossible. Et ça va très loin, ça. C'est une purgation. Et voyez, alors c'est très important pour toute la philosophie du vivant. C'est très important. Découvrir l'âme comme un principe immanent de vie efficient. C'est ça la première chose que vous découvrez. Et vous voyez ensuite que ce principe immanent, il est forme, forme substantielle. Et donc, d'une certaine manière, la tentation, distinction âme et corps, que vous projetez, et c'est ça qui irrite les savants. Ça les irrite profondément, parce que pour eux, c'est ça. C'est comme une œuvre d'art. C'est pour ça que c'est si important. C'est pour ça que j'insiste là-dessus. Pour supprimer ça, purgation de votre philosophie de la nature scolastique. Parce que ça s'enseigne encore, ça. Ça s'enseigne. Partout, tous les gens qui enseignent la philosophie de la nature enseignent ça. Immédiatement. Et non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Oui.
Par rapport, par exemple, à la régularité des phénomènes célestes, il y a une tentation, il y a une certaine efficacité, une intelligibilité donnée par l'idéal.
Tout à fait.
On peut mesurer ce mouvement.
Oui.
Est-ce que les sciences ne sont pas nées justement de cette...
Ah, les sciences sont nées de l'art. Bon, oui, par les mathématiques. Les sciences sont nées de la mathématique. Les sciences modernes, c'est une extension des mathématiques. C'est du pythagorisme. Si j'étais pythagoricien, je serais très bien. Voilà. Ça, c'est pas naturel. Hein. Oui, exactement. Il réagit. Alors, vous voyez, par le mouvement naturel, d'où ça vient ? Bien, le mouvement naturel a une source immanente qui est propre à chaque réalité dans sa détermination. Et il y a une seule source. Il y a un principe immanent de ce mouvement, à la différence du mouvement artificiel dont la source n'est pas immanente et provient d'extérieur. Cette source immanente, elle est une dans sa réalité, mais je peux tout de suite voir que cette source implique détermination et indétermination. Alors je rejoins, mais par le principe d'efficience. Il y a un principe efficient qui est la nature. Et la nature implique détermination et indétermination. Ça, ça ne me gêne plus. J'ai saisi le principe immanent.
Et par exemple, dans le choix de l'expérience pour comprendre le mouvement, est-ce qu'on peut prendre le feu? Parce que
ah oui, je comprends.
Il éclaire toujours, il brûle toujours,
ben
pas
oui,
la plupart du temps. Mais...
Ah oui, mais c'est, faisons attention, ça vous êtes dans les propriétés du feu.
Oui,
dans les propriétés, oui, tout de suite. Oui, oui. Dans l'expérience du feu.
Mais le feu, il n'est pas par lui-même, il n'est pas produit par lui-même.
Il peut s'éteindre.
Mais pas par lui-même, par le vent, par...
les éteins, moi. Ah oui, mais quelquefois, j'arrive pas à les éteindre.
À cause de la force du vent, à cause de...
Oui, vous dites ça, mais enfin, c'est le feu. Moi, je regarde le feu, je vois qu'il s'éteint, et puis quelquefois, qu'il continue. Alors, vous avez toutes les conséquences, c'est très bien. Évidemment, si vous arrivez à mettre une quantité d'eau suffisante, vous dites, tu vas sûrement s'éteindre.
Donc la détermination dans le feu, ce sera le fait qu'il puisse s'éteindre comme il puisse durer.
Voilà, exactement. Ou d'une pluribus, il s'éteint. Il met une quantité d'eau suffisante. C'est le contraire, oui. Pour jeûner, le contraire.
Mais quand même...
C'est comme de l'eau par rapport à la terre. Mais il y a la terre, boit l'eau. Puis arrive un moment, elle ne boit plus. Et l'eau s'étend. Donc il y a un équilibre dans la nature. Mais chef, qu'est-ce que c'est que ce mouvement? Qu'est-ce que c'est que c'est cette réalité qui m'échappe tout le temps et qui tout le temps revient? Mais l'aspect de la détermination et de la détermination, elle existe. Et je la retrouve après. Je lui dis qu'elle ne peut pas me permettre de saisir le principe propre. Parce que c'est le mouvement. Et le mouvement est premièrement intelligible par son origine. En définitive, c'est ça que je conclue. Je pourrais le dire tout de suite. Le mouvement comme tel n'est intelligible que par son origine. Son origine immanente pour le mouvement naturel, son origine extrinsèque pour le mouvement. Mais c'est son origine, c'est la cause efficiente qui me donne l'intelligence première, fondamentale, propre du mouvement. La détermination, la détermination, à partir de là, je peux très bien les reprendre. Et grâce à ce principe efficient, la détermination alors, liée au mouvement, me donne ce qui me permet de dire la constante qui existe dans ce mouvement. Et l'indétermination, la matière, me montre au contraire comment ce mouvement peut disparaître.
N'est-ce pas dans l'urgence pratique qu'on se rattrape dans le conditionnement et on...
Oui, tout à fait.
On cherche à dominer immédiatement...
Immédiatement, je cherche à dominer par le point de vue des conditions, par le point de vue des circonstances. Si on cherche à comprendre simplement et pas dominer, j'essaie de saisir quel est le point nécessaire qui existe dans la nature. Où y a-t-il l'unité dans la nature? Tandis que forme et matière, je reste dans la dualité. Ça, je ne peux pas nier. L'unité, c'est du côté de la cause efficiente. Je crois qu'on ne peut pas en sortir autrement. Et par la cause formelle, je rejoindrai la finalité. Oui. Au fond, c'est saisir, c'est quand même très curieux, c'est saisir l'ordre de la saisie interne des principes dans ce mouvement naturel que j'expérimente. Je saisis en premier lieu la nature principe propre et efficiente, puis en second lieu ce principe est double, détermination et détermination. Et en troisième lieu, la finalité. Ut in pluribus. La finalité d'un analyse. Oui, comment de la nature. Il a donné un bon coup. Vous savez, ut in pluribus, sa finalité. Elle n'est qu'ut in pluribus. Pourquoi? Parce qu'elle est liée à la nature forme. Si la finalité était liée directement au principe 1, elle serait tout le temps. Alors la finalité est ut in pluribus. Il y a des monstres dans la nature. la finalité, arrêter de temps en temps par la matière. Et par là, par la matière, le hasard. Le hasard existe dans la nature. Et le hasard ne supprime pas l'intelligibilité que je peux avoir de la nature. Vous voyez, faites bien ce circuit. C'est capital, quatrièmement. Oui, le hasard, c'est le monstre qui semble dire, mais non, il n'y a pas d'intelligibilité dans la nature. Alors vous voyez, la science, au fond, voudrait avoir un modèle idéal de la nature, alors qu'il n'y en a pas. Et c'est là où la science se trompe. Et vous allez voir que la science se trompe et la nature va se venger. Et on assiste à ça, c'est assez intéressant. La philosophe dit, mais très très bien que la nature se venge. Il montre aux savants que c'est très très bien. Il croit dominer, mais pas du tout. Il a oublié la matière, qui est une force fondamentale.
On traite un sujet très difficile, la question de la philosophie de la matière, et que ceux qui sont là aujourd'hui n'ont pas suivi les cours précédents. Je vais peut-être reprendre d'une façon générale. Vous voyez, le sens de ce que représente la philosophie de la matière, ce qu'on a appelé de façon traditionnelle philosophie de la nature. Mais en réalité, c'est la philosophie de la matière dans le sens où on essaie de comprendre ce qu'est ce monde physique. C'est à l'égard du monde physique dans lequel on est qu'on a essayé de réfléchir. Qu'est-ce que ça représente ? Qu'est-ce que c'est ? Oui, la philosophie occidentale a de fait commencé par ce regard sur notre monde physique. Thalès, Anaximandre, Anaximène. Ça a commencé par là. Évidemment, avant, il y a Hésiode qui regardait l'homme et les dieux. Mais après avoir regardé l'homme et les dieux, les philosophes ont regardé le monde physique. Ils ont réfléchi sur le monde physique pour savoir d'où il venait, ce qu'il y avait de fondamental dans ce monde physique, dans ce monde de la corruptibilité. Et alors, vous avez une première position qu'il ne faut jamais oublier. C'est ceux qui disent que ce monde physique est inintelligible. Il n'y a rien qui peut arrêter notre intelligence, puisque tout change. Vous voyez, le Pindare d'Hésiode, d'Héraclite. Tout coule, tout change. On ne peut pas descendre deux fois dans le même fleuve. Et on comprend très bien ça. C'est une attitude... C'est normal, notre monde change tout le temps. Dimanche, il faisait très beau. Lundi, également, j'étais à Paris, je présume qu'il existait la même chose. Mais hier, c'était effrayant. Je ne sais pas si c'est comme ça, mais c'était affolant. J'en ai profité pour aller jusqu'à Grand-Bourg. quand on est revenu, on se demandait si c'était pas les ténèbres apocalyptiques qui commençaient. On était dans un nuage. Jamais vu ça à Paris. On était dans un nuage, vraiment. Comme si on était en haute montagne. Et ça arrivait subitement comme ça. Le lendemain, ça change. Vous voyez, tout change. Tout coule. Pas faire deux fois le même trajet. Ou une espèce de changement constant. Et alors les anciens étaient très impressionnés par ce changement et au contraire les astres. Bref, je crois qu'il y a là quelque chose qui est assez impressionnant. Évidemment, ceux qui habitent tout le temps la ville ne voient pas ça. Et dès qu'on habite dans la campagne, la chose merveilleuse, se promener la nuit, quand il fait beau, pour avoir le ciel. Et si on a un tout petit télescope de regarder, il faudra en avoir un centre, un gros. Je sais bien que ça coûte très cher, vous savez rien. Parce que c'est très beau de regarder ça, il n'y a rien de plus beau que de regarder les étoiles, de voir que chaque étoile a sa physionomie particulière, a sa couleur différente. Les anciens étaient très impressionnés par ça. D'une part, notre planète, où tout change, et d'autre part, le monde céleste, où rien ne change. Il y avait ce contraste. Et oui, c'est intéressant parce que c'est ce contraste qui leur faisait poser des questions. Pourquoi ce monde sublunaire, puisque pour eux c'était le monde sublunaire, changer tout le temps. Et nous étions plongés dans ce monde sublunaire. Alors que l'univers des étoiles, lui, était invariant. Duhaime, qui a fait une très belle histoire de la physique et de la cosmologie, un livre qu'il faut lire, tu vois, qui est intelligent, un livre à la fois philosophique et scientifique. Duhaime a essayer de préciser comment le fait de regarder ce monde physique, ce monde des étoiles, avait donné le sens de la nécessité. Un mouvement circulaire, toujours le même, identique. Et le monde sublunaire, toujours variant. Alors je crois que ça fait que immédiatement, il y a eu tout de suite ce double regard qu'on n'a plus du tout, nous. Plus du tout. Alors, il faut se demander pourquoi. Et si c'est légitime. C'est pas si commun que ça à répondre. Parce que ça, c'est une première constatation qui, chez Aristote, a donné tout de suite le monde de la génération et le livre du ciel. Le livre sur la génération et la corruption, c'est notre monde sublunaire, le monde des catastrophes, le monde des changements constants, 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 le monde dans lequel on se demande si on peut saisir quelque chose de nécessaire. Et le monde des astres, le monde du ciel. Alors, dans l'Antiquité, il y a deux grandes positions. La position de ceux qui disent le monde sublunaire, c'est un monde de changement constant, donc on ne peut que décrire ces changements. Je ne change pas le principe. Et puis, Héraclite, Platon, on va l'oublier. Platon considère que notre monde sublunaire est un monde qu'il ne faut pas chercher, surtout pas chercher, d'intelligibilité. Parce que pour lui, la matière, c'est une non-être. Donc tout ce qui est affecté de matière est quelque chose qui échappe complètement au regard philosophique. Tandis qu'au contraire, le monde du ciel, c'est un monde les intelligents. C'est un monde auquel il faut être très attentif. Parce que là, on a quelque chose qui, justement, est parfaitement intelligible. Aristote a eu le mérite, je dis bien, il a eu le mérite de regarder que même notre monde sublunaire porte en lui une certaine intelligence, un certain ordre, qui n'est pas parfait, mais il y a un ordre. Et parce qu'il y a un ordre, il y a une certaine finalité dans notre monde sublunaire. Mais cette finalité est très souvent voilée. Très souvent, il y a des échecs. Et les échecs de cette finalité, c'est ce qu'on va appeler le hasard. Et le hasard se fonde sur la matière. La matière est source de toutes les contingences possibles. Parce que la matière implique un ordre vers le non-être. La matière n'est pas du non-être, elle implique un ordre vers le non-être. Là, toute la différence entre Platon et Aristote par rapport à la matière. Qui fait que d'un côté, notre monde physique est inintelligible. Oui, et c'est là où vous voyez tout de suite que Platon n'a pas saisi la réalité du corps humain. Toute la science physique moderne, même si elle est avec des quantités de choses qui ne sont pas toujours justes, toute notre science biologique nous montre qu'il y a à l'intérieur du monde physique une certaine intelligibilité. Il y a des lois. C'est pour ça que Platon est balayé par la science moderne. Aristote ne l'est pas. Il résiste. C'est quand même intéressant de voir que de fait Aristote résiste. Il y a des conclusions d'Aristote qui ne résistent pas. Et ce serait très intéressant de toutes les noter. Oui. Pour ceux qui connaissent un peu Aristote, voir toutes les conclusions aristotéliciennes qu'il faut faire tomber. Il y en a une que je vous cite tout de suite. C'est le fameux problème de la quintessence. Je vais préciser avec vous, parce que c'est intéressant. C'est là on voit la vision du monde différente d'Aristote et différente de nous. De nous, en tant qu'on essaie d'avoir une philosophie réaliste. Aristote reconnaît que le monde sublunaire, c'est-à-dire notre petite terre, parce que c'est notre petite terre, sublunaire. Le soleil est au-dessus de la lune. Donc le soleil fait partie des astres. Des astres qui sont célestes. Le soleil, c'est déjà le ciel. Un ciel très chaud, mais c'est un ciel. Pour Aristote. Tandis que la terre est sublunaire. Eh bien, Aristote reconnaît que notre petite planète, bien qu'elle soit tout le temps dans le changement, implique cependant une certaine finalité. Et grâce à cette finalité, il y a une intelligibilité qu'on doit saisir, même si très souvent elle est voilée, même si très souvent elle rate. Mais l'intelligibilité parfaite, c'est le monde céleste. Alors c'est là où Aristote nous donne des conclusions peut-être trop hâtives. À partir du mouvement céleste, qui est absolument régulier pour lui, nous aujourd'hui, à cause de nos mesures beaucoup plus perfectionnées, nous pouvons dire que même dans le monde céleste, il y a certaines irrégularités. Pas régulier comme le dit Aristote. C'est pas nécessaire comme le dit Aristote. Pour Aristote, à cause de ce mouvement céleste, circulaire, régulier et parfait. Il y a une matière des corps célestes qui n'est pas la même que la nôtre. Et cette matière des corps célestes, c'est ce qu'il va appeler la quintessence. Et voyez pourquoi. Il y a quatre éléments, il y en a un cinquième. Le cinquième, quintessence, c'est l'essence cinquième. Et l'essence cinquième, c'est ce qui forme les corps célestes. Et cette nature des corps célestes, quintessence, a une qualité que tout ce qui est sublunaire n'a pas. Elle n'est pas corruptible. Le monde céleste n'est pas corruptible. Il est bien évident qu'on ne peut plus maintenir ça aujourd'hui. Le Big Bang, vous voyez ça, vient refuser ça complètement, complètement. On reconnaît aujourd'hui que tout notre univers, celui de notre petite planète, celui des galaxies les plus lointaines, c'est un monde corruptible. Vous voyez, c'est là où le progrès de la science est obligé, du moins oblige le philosophe de ne pas aller aussi vite dans ses conclusions. Est-ce que ça modifie quelque chose à la métaphysique? Rien du tout. Parce que la métaphysique ne repose pas sur le devenir. Or là, il s'agit tout simplement de deux devenirs différents. Je dis ça parce que ça, c'est très important pour nous. Parce que ça, c'est les grosses attaques massives au thomisme et à l'aristotélisme. Donc il faut quand même comprendre que ces grosses attaques sont simplistes. Il faut leur dire ça. Parce que ordinairement, les gens n'aiment pas qu'on leur dise que leurs attaques sont simplistes. Nota bene, hein, post-scriptum. Un sujet tout à fait différent. Les évêques allemands de langue allemande, 163, les évêques, les théologiens allemands, 163, Allemagne, Luxembourg, Pays-Bas, Suisse, Autriche, mentionne pas, et je présume qu'ils soutiennent un peu, tous ceux de langue allemande, dans la fête de l'Épiphanie, je présume avec une intention très particulière, puisque c'est la fête de la lumière, c'est la fête des étoiles, quoi, l'étoile royale des mages, où est-elle? Est-elle royale des mages? On signait un pamphlet, une lettre critique au pape, rendu public à la fin du mois de janvier. Les théologiens français, 130, moins, viennent de faire une déclaration à peu près la même. M'a-t-on dit. J'ai lu celle des Allemands, j'ai pas lu celle des Français. J'ai lu la réponse des évêques allemands. Unanime à dire vos conclusions sont simplistes. C'est bien. Vous voulez un langage scientifique et vous le prétendez, et vos critiques ne sont pas scientifiques. Autrement dit, elles sont affectives et passionnelles. Rentrer dans le pugilat. Parce que c'est intéressant de voir ça. Mais c'est toute la chrétienté et toute la vieille Europe qui est intéressée. Ça commence bien. Au moment où on parle de l'Europe tout le temps, voir que des déjà, je veux voir si on va voir les évêques anglais, les théologiens anglais, les théologiens espagnols, les théologiens italiens, on va voir. Les théologiens russes, on va voir. C'est quand même pas mal, 163. Et 130 en France. Avec l'addition, hein. Vraiment contre. Bon, je remets la parenthèse. C'est pour Simpliste. Alors, voyez bien. Petite planète. Il y a le mouvement vers le bas, le mouvement vers le haut. Et dans le monde céleste, le mouvement vers le bas. Un peu plus régulier ça. C'est très difficile à faire un petit rond. Un grand droit. Mais un petit, c'est très difficile. C'est l'avantage, c'est que le mouvement céleste est toujours un grand. Et pour les anciens, on prend ce qu'on constate. On constate qu'il y a un mouvement circulaire. Un grand mouvement. Ça reste vrai. À partir de là, vous avez les quatre éléments. Vraiment, à partir de mouvement. Il y a un élément qui chute tout le temps. L'élément de chute. Ce regard. Ça ne m'étonnerait pas que quelque chose se passe. Ça ne m'étonnerait pas. C'est difficile à préciser. Très difficile. Parce que c'est très élémentaire. Très simple. Très très simple. Qui très simple, souvent cache une vérité très profonde. Parce qu'on regarde les éléments par le mouvement. expliquer ça, c'est pas. Thank you. anciens, il y a deux mondes totalement différents. Le monde des corps célestes, qui est parfait, et qui est modèle du monde physique corruptible. En détruisant ce modèle, parce qu'il est corruptible, en faisant sauter ce mythe des corps célestes, c'est un mythe, des corps célestes, qui sont divins. Les corps célestes, pour Aristote, sont divins. Et selon toute une grande tradition, les corps célestes sont divins. Tradition religieuse, le respect à l'égard des corps célestes. Donc on fait tomber ce mythe. Les corps divins, les corps célestes sont corruptibles, donc ils ne sont pas divins. Le divin, c'est ce qui est au-delà de la corruption. Pour toutes les grandes visions philosophiques, tout ce qui est corruptible n'est pas divin. Le divin, c'est l'incorruptible. Que l'incorruptible soit éternel, c'est autre question. Mais ils sont incorruptibles. Donc cette vision-là, nous ne pouvons plus la garder. Mais nous devons comprendre qu'il y a quelque chose de sous-jacent à cette vision, qui est le primat de la lumière. Vous voyez cette chose très curieuse, hein, l'unité du cosmos, pour Aristote, pour saint Thomas, pour Théard, c'est le même, c'est la lumière. Très curieux et très intéressant. Parce que quand Aristote, saint Thomas et le bon père Théard sont d'accord, chapeau. On dit, tiens, il doit y avoir quelque chose. C'est la lumière. Et alors, voyez, le progrès de la science met en pleine lumière le primat de la lumière. C'est intéressant pour les peintres. Très intéressant. La lumière, ça a toujours joué. Et chez les sculpteurs. Et chez les architectes. Et... Oui, tout à fait. Mais oui, là, je tombe déjà dans le symbolisme. Je me place au niveau de philosophie de la nature. Oui. Parce que c'est le symbole de la roue. Et que l'homme fabrique la roue. La roue a été, il semble bien, la roue a d'abord été un symbole spirituel, religieux. Puis après, on l'a utilisé. Il semble pas. C'est Pierre Desfontaines. Il semble bien que la roue était d'abord saisie dans un symbolisme spirituel pour montrer l'éternité. Et alors c'est lié à la lumière. Vous ne pouvez pas inventer la lumière pour inventer la roue. Ce petit gosse de 4 ans, ça m'a été dit par sa mère. Ce petit gosse de 4 ans, la mère lui sort de la soupe. Il voit comme ça. La mère dit, mais prends ta soupe. Bouge pas. Et tu penses à quoi? Maman, qu'est-ce que c'est que l'éternité? Alors sa mère, elle dit, il vaut mieux prendre ta soupe d'abord. Avant d'avoir la solution. La mère, voyant qu'il est entêté dans l'éternité, quand il est entêté pour l'éternité, ça dure longtemps. Sa mère s'en va, puis au bout de 10 minutes, elle voit qu'il prend sa soupe. Alors il lui dit, tu as trouvé? Alors le gosse prend le rond. Maman, l'éternité, c'est ça. Et là, c'est un symbole extrêmement profond. Alors voyez, on voit la projection de ce symbole sur la philosophie de la nature, sur les astres, c'est une projection religieuse. C'est la son divin parce qu'il y a la roue. La science détruit tout ça, terrible science, elle détruit tout ça et reste la lumière. La lumière, les hommes ne la font pas. Mais la lumière électrique, c'est pas la lumière. La roue était un symbole merveilleux et qui reste un symbole merveilleux d'éternité. Et je crois que c'est premièrement religieux, hein, comme symbole. Vous voyez, ce que vous dites, tu vois, ça sort de ce qui est le plus profond en nous. Et c'est la roue. On a inventé la roue. Qui soigne quelque chose. Et c'est vrai, c'est le fruit de la lumière. C'est le fruit de la contemplation qu'on porte en soi. C'est cet appel vers l'absolu. Mais au point de vue philosophie de la nature, c'est la lumière qui est première. Et la lumière n'est pas qu'aux exemplaires. Elle ne fait non avec rien. Rien ne fait non avec la lumière. Évidemment, on dira qu'il y a des réalités qui sont opaques par rapport à la lumière et des réalités qui se laissent transformer par la lumière. C'est sûr. Mais aucune réalité physique n'est totalement opaque à la lumière. Aucune.